Très bien, merci. Donc, bonjour à tous. Je vais d'abord commencer par faire une présentation rapide de Captain Dash et de notre solution avant de laisser la main à Ahmed, qui est notre lead développeur basé à Tunis. Donc, Captain Dash, c'est une start-up qui a été créée il y a à peu près 2 ans. On a un centre de recherche-développement basé à Paris et à Tunis. À Paris, on est plus sur la partie vraiment back-end, et à Tunis, c'est où on développe la partie service et front. Donc, ce qu'on fait, nous, c'est une solution de BI et data visualisation en mode SaaS. Et donc, pour l'instant, on est présent sur la plateforme sur l'OS Windows 8. On est amené à développer sur d'autres plateformes, mais on a commencé par Windows 8. Et enfin, dire qu'on est partenaire Microsoft, donc on fait partie du programme BizSpark One. Donc sur Windows 8, notre solution est l'une des seules solutions business maintenant pour l'instant qui a été développée sur Windows 8, et on a commencé directement sur cette plateforme. Donc notre outil, ce qu'on propose, c'est au département marketing un outil qui leur permet de synchroniser toutes les données qui proviennent de différentes sources, que ce soit du Facebook, que ce soit leur système de vente, Google Analytics ou autre. Et donc de facilement se synchroniser, que ce soit à travers des API ou tout autre moyen. Enfin, une fois qu'ils ont centralisé ces données, leur permettre également de faciliter et d'avoir accès à ces données de manière très très simple. C'est-à-dire que dans les départements de marketing, souvent l'utilisation d'Excel n'est pas très bien maîtrisée. Donc nous, ce qu'on propose, c'est un système, une solution qui permette avec des drag and drop, par exemple, de créer facilement des dashboards et autres visualisations. Mais enfin, on leur propose également d'enrichir ces informations qui proviennent de leur entreprise avec des facteurs externes, par exemple la météo, trafic routier, qui sont des exemples classiques. Et ce sont souvent en fait des facteurs qui ne sont pas pris en compte parce que l'accès aux données est pas très simple. Donc maintenant quelques principes de base de Captain Dash pour que vous compreniez après ce qu'Armel va vous présenter. Donc ici on va vous parler de connecteurs. Connecteurs, en fait, c'est la manière qu'on a d'accéder aux données. C'est-à-dire que l'utilisateur va créer un connecteur de manière très simple, c'est-à-dire en rentrant son login password de Facebook, de sa page fanpage Facebook, et après nous allons Captain Dash automatiquement aller mettre à jour les données dans notre système. Le marketing cockpit, en fait, est la première partie de la solution, qui en gros c'est un système de dashboard qui permet à l'utilisateur de créer des KPIs et des alertes et de les avoir mises à jour régulièrement. KPI est donc un indicateur clé qui peut être par exemple mes ventes, les visites sur mon site web, etc. L'utilisateur va pouvoir à la volée créer lui-même, et de la même manière il peut créer des alertes qui sont en gros des indicateurs clés qui sont déclenchés si une condition est remplie. Par exemple, si mes ventes baissent de plus de 10%, je veux qu'une alerte me soit envoyée sur mon dashboard, sur mon marketing cockpit. Et enfin, on a la partie DataVis, où l'analyste ou l'utilisateur de la solution va pouvoir aller creuser un peu plus en détail dans les données et croiser des données qui proviennent des différentes sources. Donc sur la page suivante, vous avez un screenshot du marketing cockpit où vous voyez différents éléments. Donc les petites tuiles représentent chacun un KPI qui est mis à jour automatiquement. Vous avez également une preview de ces KPI. Vous pouvez les organiser de la manière dont vous souhaitez, c'est-à-dire par catégorie. Ici vous voyez le premier groupe qui a trait au site web du client, et le deuxième dont on voit le graphe en partie à droite, qui est donc à plus trait à ses ventes. Et enfin, dans la partie inférieure, vous pouvez créer vos alertes, suivre un compte de Twitter. Là, dans ce screenshot, il n'est pas mis en place. Et enfin, accéder à l'écran de data visualisation, qui est donc l'écran suivant, qui se divise principalement en trois parties. Vous avez la partie principale à droite qui donc montre la visualisation. À gauche, vous avez un menu qui permet à l'utilisateur, ce qu'il faut voir, c'est que c'est sur une tablette, donc tout est en tactile, en cliquant, en appuyant sur chacune des options, de naviguer dans ces données, et ensuite, en faisant un drag and drop de cette donnée, de la déplacer dans la partie supérieure de l'écran, où vous voyez différents types de représentations graphiques, et donc de les afficher. Donc c'est aussi simple que ça pour créer une visualisation. Ensuite, il y a toute une série d'autres fonctionnalités qu'on verra pas ici, mais donc voilà pour la partie application. Donc en termes d'architecture et de technologie, je vais laisser la main à Ahmed, qui va donc plus vous parler de la partie Azure et de comment on gère les services et les données de l'application.
Bonjour à tous, merci Yannick, et donc je me présente, je suis Salih Ahmed et je suis le lead developer de Captain Dash dans le pôle de centre de recherche et développement à Tunis. Donc la slide suivante, je propose à découvrir donc nos trois grands pôles de l'application, qui est la partie front office, qui est développée en Metro Style Windows 8 et qui est développée avec JavaScript, donc bien sûr avec Lumin.js, la librairie présente Windows 8 pour JavaScript, et tout ce qui est HTML5, CSS pour gérer les pages et tout ce qui est transition entre les pages. Ensuite, le back-office, ce qu'on appelle notre back-office, qui est développé déjà en .NET, C#, avec WSCF pour gérer la communication entre notre front-office et back-office. Il est hébergé donc en Azure. On héberge notre back-office qui gère des services pour faire le calcul du business que Yannick vient de décrire, que ce soit pour les KPI, que ce soit pour les alertes qu'un utilisateur va les créer. Donc tout le calcul, il est fait plutôt dans le back-office, dans la partie service, et non pas dans le front-office, ainsi que tout ce qui est service de mise à jour des données, de création de connecteurs, de se connecter aux API de Google Analytics et de Facebook, de toutes les API qu'on les supporte maintenant pour récupérer les logins, les access tokens. Et ensuite, le back-end, donc là, dans notre architecture, on essaye de séparer notre back-office, là où les services de calcul et de login et de management, aux données en dur. Donc le back-end réellement qui est développé en Java, il est monté dans un environnement Hadoop PageBase, NoSQL, dans l'Amazon qui est hébergé, et là où on gère les données réellement des connecteurs de chaque utilisateur, sa data qui est une big data qui vient de Google Analytics, de Facebook, de Foursquare. Prochainement, on aurait de Atlas et de Foursquare. Je passerai vers la slide suivante, et là, je présente notre architecture telle que j'ai expliqué en avant. Mais comme vous voyez, on a notre partie back office, notre partie front office. Là, c'est en Windows 8, que ce soit avec un simple PC ou bien avec une tablette en mode touch screen aussi. Donc on se connecte via le protocole HTTPS sur nos services qui sont hébergés dans l'Azure. Je vais expliquer en plus de détails dans les slides à venir sur notre back-office. Et ce back-office, en fait, il se connecte sur le back-end pour récupérer la donnée, pour demander la création de connecteurs et de stocker les données de chaque utilisateur. Dans cette slide, donc on va faire un zoom sur notre architecture Azure et qu'est-ce qu'on a dans l'Azure. Donc on a déjà, comme vous voyez ici, deux blocs qui se répètent. En fait, c'est nos web role instances, et on a deux instances du coup pour si un web role il n'est pas disponible, on aurait le deuxième qui serait disponible. Même on est allé vers maintenant à augmenter les instances vers quatre instances vu le nombre d'utilisateurs qui maintenant qui a atteint les 4000 utilisateurs. Et du coup, ensuite, on partage entre ces deux web roles, on partage un espace de stockage pour tout ce qui est trace logging via la technologie Blob et tout ce qui est CDN. Et ensuite, donc, on présente nos worker roles. Ces worker roles, ils sont dédiés pour tout ce qui est des process, de daily process et de scheduled process. Ce sont des processus qui vont faire la mise à jour des données, des connecteurs, la mise à jour des KPI, la mise à jour des alertes chaque jour ou bien même chaque aller vers chaque heure. Donc, et dans nos web roles, on a les services de login pour que l'utilisateur, via son live ID, il peut se loguer sur Captain Dash, on fait le check-in, est-ce qu'il y a le check s'il est identifié ou non, la création d'un profil. Ensuite, tout ce qui est business, est-ce que j'ai expliqué en avant, le calcul des KPI, le calcul des alertes. Le get de la donc le transport de la data, le transfert de la data qui existe dans le back-end pour le rapporter à l'utilisateur dans le front office et qu'il puisse y jouer. Et du coup, donc ici, on a notre base de données SQL Azure. Cette base de données, elle est séparée en deux. Une partie managériale où on gère le log des clients, où on gère chaque client, qu'est-ce qu'il possède comme des KPI, comme des alertes, comme des connecteurs. Et aussi bien, donc, comme je viens d'évoquer, on gère aussi en stock les connecteurs, les KPI, les alertes. Et quand je dis qu'on stocke les connecteurs, on stocke pas la donnée des connecteurs, mais on stocke où est-ce que le connecteur il existe dans notre backend, donc une référence où est-ce que ce connecteur il existe. Et mais les KPI et les alertes, ils sont plutôt existants dans notre base Azure. Ce qui vient aussi de plus par rapport à cette architecture, on a mis aussi un système de cache de sorte que même si notre backend il n'est pas disponible, donc on a un cache qui peut servir à nos clients pendant une période si notre backend il n'est pas disponible. Je passerai vers la slide d'après. Donc là, je cite quelques services qui sont hébergés dans l'Azure, tels que Captain Dash Login. Et en fait, ce service, il s'occupe de tout ce qui est login, création de clients, de profils. Ensuite, Captain Dash Business, là où on fait tout la création des KPI, la création des alertes. Aussi on a un système de bookmarking. Si l'utilisateur il a une database et qu'il veut la bookmarker et ensuite revenir vers ce bookmark après. Tout ce qui est calcul des KPI journaliers et même descendre vers le niveau par heure. Ensuite, Captain Dash Manage Connector, là où on gère toutes les demandes de création de connecteurs par l'utilisateur et la gestion de l'update des connecteurs aussi. Captain Dash Cache Pooler, c'est un cache qu'on a créé pour gérer une partie de cache entre la communication entre le back-end et le back-office. Et Captain Dash Daily Process, là c'est le service plutôt de tout ce qui est Daily Process qui tourne et qui est supervisé par notre worker role. Donc, je vous donne un petit aperçu aussi sur notre architecture back-end, mais juste avant d'aller vers l'architecture back-end, je vais vous partager mon écran pour voir comment réellement notre architecture dans l'Azure via la plateforme Azure. Juste de me donner le temps de partager mon écran et voilà dans mon écran ce que vous voyez. Donc c'est Windows Azure Platform et comme vous le voyez ici, donc j'en ai 1, 2 et 3 services qui sont hébergés. est déployé dans Azure et on va s'intéresser au service Captain Dash Store 3. Donc là, c'est on gère le versioning de nos services. Et on a en fait deux services qui sont hébergés, un service qui s'appelle CDOL Captain Dash Service Preprod. Ça, c'est notre environnement Preprod qui est dédié pour les développements et pour les tests. Sinon, notre environnement qui est déployé pour le store et pour le prod, c'est cet environnement-là. Et comme vous voyez, on a donc le Captain Dash Daily Processing, et ça, c'est le worker role qui s'occupe de tout ce qui est process de mise à jour des connecteurs, de mise à jour des KPI et des alertes. Sinon, il y en a aussi donc les services et les services, que ce soit de login, que ce soit les services de business, calcul de KPI, création de connecteurs, c'est fait sous Captain Dash Service Login. Et si j'ouvre bien, on va voir qu'on a deux instances pour chaque service, que ce soit pour le worker role, que ce soit pour les services qui tournent pour le login ou bien pour tout ce qui est business. Je vais aller ensuite vers tout ce qui est espace de stockage et comme vous voyez ici, on a un espace de stockage qui s'appelle CD Storage Service. Et cet espace de stockage, il est dédié pour le log tracing de Captain Dash, pour voir nos utilisateurs, qu'est-ce qu'ils utilisent, combien de KPI ils sont en train de créer, pour faire toutes les statistiques sur nos utilisateurs. Et sinon, on a un autre espace de stockage portal, VHDS, et en fait, celui-là, il est plutôt utilisé pour gérer un cache dédié, un cache pooler. Je vais revenir vers... Je vais revenir vers notre... Allô?
On ne t'entend plus, tu es là?
Allô?
Allô, allô? On t'entend.
Allô. Allô, vous m'entendez maintenant?
Oui, c'est bon, ça marche.
Ok, je crois que mon PC vient d'être bloqué. Je voudrais revenir vers le PowerPoint, mais...
Attendez. Je n'arrive
pas.
Ah, voilà.
Ok, voilà. Ok, c'est bon. Au contraire de Yannick, mon PC, il est Windows 8 plutôt. Donc parfois ça bloque, je sais pas pourquoi, mais en tout cas c'est... parce que je suis sur un environnement de dev. Ok, donc je reviens vers l'architecture back-end, après qu'on a vu notre architecture Azure. Dans l'architecture back-end, à ce que vous voyez, comme vous voyez, donc ça c'est notre front office, donc l'application qui est dans le store de Windows 8. Notre back-office, comme je viens de l'expliquer, dans l'Azure, et tout ce qui est dans ce bloc, c'est notre architecture back-end. Donc, on a... tous les demandes se fait du back-office vers l'espace multidimensional big data pour faire les demandes de création de connecteurs via des queues. Et ensuite, cette demande serait traitée jusqu'à ce que... il y aura une création de connecteurs et après donc après que les connecteurs ils sont créés, on aurait des OLAP créés pour chaque connecteur, pour chaque variable appartenant à ce connecteur là, et la data elle serait stockée dans cette big data store et le service il accède à ces données là pour servir nos utilisateurs de l'application Captain Dash Windows 8. Donc, comme résumé, ce qu'on a vu à partir de notre utilisation de Azure, on a eu déjà un premier avantage que on a migré de notre plateforme qui était des serveurs dédiés vers l'environnement Windows Azure. Sans avoir beaucoup de difficultés parce qu'il n'y a pas beaucoup de changements dans l'environnement de développement, il n'y avait pas de changement de software ou bien de hardware, aussi que on a bénéficié de tout ce qui est cache distribué, partage de données entre nos instances. On peut monter plusieurs instances, mais réellement, il bénéficie du même cache, aussi que l'utilisation du stockage Windows Azure, que je l'ai vu via les blobs, via les queues, qui viennent de remplacer les systèmes de fichiers et qui sont plus rapides et plus accessibles à nos services, aussi que on n'a eu aucun impact sur le code de notre application, donc on a fait une migration rapide sans modification, seulement bien sûr il y en a une modification sur les configurations, sur les fichiers de config et les app config. On a aussi une approche de réversibilité qui est rapide. Si on voudrait revenir vers des versions ultérieures, c'est en un simple clic de rebooter, de remettre, d'uploader un nouveau deploy. Sinon, comme je viens de l'évoquer, on n'a pas changé nos habitudes de développement, on n'a pas eu besoin de développer avec des technologies autres que les technologies qu'on voulait les utiliser. Et seulement, c'est juste d'avoir les compétences qui ne sont pas aussi difficiles pour comprendre l'environnement d'Azure et pour l'utiliser. Voilà, je vous encourage, si vous en avez la possibilité d'utiliser cet environnement, sachant que déjà l'environnement, il propose 80 jours en free pour l'utiliser et le tester. Je vous remercie pour votre présence et je suis ouvert à toutes vos questions pour répondre à vos questions. Merci.
William, comment s'est passé le premier déploiement?
Ok, d'accord. Donc notre premier déploiement, il est aussi simple, c'est de créer notre environnement. On a fait une application de test Hello World. C'était juste de déployer, d'avoir un environnement Visual Studio avec maintenant bon, on est dans avant on était en 2010, mais maintenant on utilise plutôt le 2011 et on a passé vers le 2012 parce que nos développements ils sont du Windows 8. Mais du coup, il y en a déjà un plugin qui est présent sur le web pour dans la MSDN pour Azure SDK. Et du coup, il faut l'installer et ensuite de simuler l'environnement en local déjà sur la machine développeur. Et ensuite de préparer le package. Il y en a une option création de package. Ou bien même de publier direct sur Azure, mais ce que je propose c'est de créer pour le premier déploiement, de créer le package et ensuite d'ouvrir un nouveau service à héberger sur l'Azure, sur votre compte, et ensuite donc de faire l'upload, et en 10 minutes, 15 minutes, vous allez avoir tout monté dans Azure et vous pouvez ensuite configurer que ce soit les fichiers de config ou bien même d'y accéder via Remote Desktop, et faire le contrôle. Donc voilà.
Il y a Michael qui demande si vous pouvez approfondir sur l'utilisation des blobs aussi.
Pour notre cas, moi, je fais toujours mes recherches sur l'MSDN ou bien sur le help de Windows Azure, comment utiliser, que ce soit le déploiement, que ce soit le blob, que ce soit le queue. Mais le blob, réellement, c'est un système qui remplace le système de fichiers. Et du coup, il y en a déjà des bouts de code qui sont déjà préparés pour utiliser ces blobs-là. Et c'est en fait c'est en mode écriture via DQ. On va écrire sur le blob ou bien de créer une application pour lire des blobs. Pour le moment, il n'y a pas un moyen de lire directement sur le blob à partir de la plateforme Windows Azure, mais il faut créer des bouts de code pour lire les, parce que c'est pas réellement un système de fichiers simple à lire, mais c'est de le parcourir, comment le parser, comment le déparser. Et d'écrire sur le blob, c'est juste surtout dans notre cas, lorsque vous avez deux instances, ce que je vous propose, c'est de gérer l'écriture sous mode de threading pour ne pas écrire dans le blob en même temps à partir de deux instances, et donc de faire un système de lock du blob pour écrire via ce que je propose, via des queues qui sont proposées par Azure aussi.
Pierrick demande quelle est la meilleure, quel est le meilleur type d'instance. Est-ce que Azure supporte-t-il des bases MySQL?
Pour
Alors.
la première question, donc, quel est le meilleur type d'instance? Donc, ça dépend du nombre d'utilisateurs de vos services lorsque vous allez déployer, parce que les types, les instances, ils sont ou bien des machines virtuelles, et ça dépend de la taille. Il y en a des tailles minimum, il y en a du large. Donc là, c'est la configuration, ça dépend. Que vous voulez des machines puissantes ou bien un peu puissantes, ça dépend donc des connexions des utilisateurs. Et vous serez aussi même conseillé via l'Azure à partir. Vous pouvez juste simuler et voir. Et ça, ce que j'ai vu avec le nouveau portail de Windows Azure, vous pouvez même suivre les machines. Est-ce qu'ils sont aussi saturés? Est-ce qu'ils utilisent plus que 80% du processus du processeur ou non? Et du coup, donc, il y en a du help pour utiliser les instances. Et c'est basé sur le nombre de requêtages sur les instances, sur les services, et du nombre du daily process de la fonctionnalité de vos workarolles, si vous en aurez des workarolles. Pour la question, est-ce que Azure supporte-t-il les bases MySQL? À ma connaissance, je l'ai pas, j'ai pas eu la chance de voir ce qui supporte une base MySQL ou non. Mais ce que je dis, c'est que la base, l'SQL Azure, c'est réellement, ça diffère pas beaucoup de la base SQL en native si tu l'as sur une machine locale ou bien sur un serveur dédié. C'est la même chose, c'est juste de changer la configuration et les fichiers de config pour accéder à votre base.
Bon, pour juste revenir sur le MySQL, en effet, aujourd'hui, c'est pas supporté par Azure, donc il faudra faire un portage de la base, mais dans la preview du prochain portail, on a fait un partenariat avec ClearDB, qui propose donc un service de base MySQL, pareil, dans le cloud, donc qui tourne sur Azure, mais c'est ClearDB qui gère ces bases. Donc c'est une option maintenant qui sera bientôt implémentée officiellement, mais aujourd'hui vous pouvez y accéder déjà par la preview, par le portail. Prochaine question. Côté sécurité, c'est du WCF sur HTTPS classique ou il y a des implémentations particulières liées à Azure?
Déjà dans la question, donc il y en a la réponse. En fait, il y en a du WCF sur HTTPS classique, mais ce qu'il y en a de plus aussi, donc c'est que Azure, ce qu'il propose, c'est réellement les services. Ils sont donc déployés dans des data centers, et du coup donc d'y accéder aussi à la donnée. Je parle de deux types. Donc il y en a pour accéder aux services, c'est du WCF HTTPS, ce qu'on a fait du classique, mais aussi pour accéder à la base aussi, c'est qu'on essaye d'avoir notre base qui serait la plus proche possible de nos services. Mais donc dans Azure, déjà la sécurité, elle est déjà donc préconfigurée. Sauf que s'il y en a des configurations spécifiques pour une application qui en demande, du genre j'en ai mes services qui seraient dédiés par environnement, un service dédié pour la zone nord d'Amérique, une autre dédiée pour l'Europe, une autre dédiée pour l'Asie. Ça, il faut implémenter un système de récupération et de détecter de l'utilisateur. Mais sinon, côté sécurité, on pourrait se suffire de WCF avec un HTTPS classique et en tant qu'un système de login password pour se connecter sur les services ou bien même sur les bases de données.
Avez-vous déjà dû modifier votre plateforme?
Il faut aussi expliquer, je crois, la taille de quoi. Moi, je pourrais juste, si j'ai bien compris, la puissance processeur, la taille de la base de données. À ce que j'ai compris, donc après qu'on a déployé la première fois, parce que après qu'on a déployé la première fois, donc on a dû redimensionner la taille, la puissance de nos processeurs et la taille de la base de données, je crois, à ce que je me rappelle, 2 à 3 fois donc on a commencé avec l'Azure depuis début novembre 2011, mais c'est ce redimensionnement de la taille ou bien de la puissance du processeur, c'était nos choix parce que c'est au fur et à mesure, dès que le nombre de nos utilisateurs il augmente et dès qu'on fait rentrer un nouveau type de connecteur, parce qu'on fait rentrer les types de connecteurs un par un, et du coup, s'il y en a plus de demandes sur un type de connecteur ou autre, donc on augmente la taille. Donc j'espère bien que j'ai bien compris votre question et j'ai répondu à la question.
William, le choix de Azure était dès le début du dev?
Non, on a développé notre application avant, qui n'était pas dans l'Azure, mais après on a déjà notre environnement et ensuite on a migré vers de l'Azure, et comme j'ai expliqué même dans la conclusion de notre présentation, c'est que la migration d'un environnement vers l'environnement Azure, il était facile parce qu'on a on n'était pas demandé de changer que ce soit les habitudes de développement ou bien de changer le code, c'est seulement de créer des app config et des fichiers de configuration pour pointer sur les bonnes bases et pointer sur les bons et les bons services, mais sachant que déjà nos services ils sont développés en du .NET et en du WCF, donc du coup l'intégration elle était rapide et facile, aussi que on utilise la base SQL, et du coup donc de migrer vers SQL Azure, c'était franchement natif, ça a été simple et efficace, donc voilà, c'est ça.
Ok, je remercie tout le monde d'avoir participé à cette meeting.